téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Allez, il est 9h41, on se remonte le moral et c'est le dernier instant M de la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Vous entendez beaucoup de choses sur le jeu vidéo, pas qu'il est devenu un média de masse. Pas que derrière les mutations de cette industrie colossale, il faut aussi s'interroger sur les messages qu'elle véhicule à échelle planétaire. Enquête sur un coup d'état culturel qui s'immisce dans chaque interstice de votre quotidien. Désormais, le jeu vidéo vous suit tout le temps et partout. Il est sur votre téléphone portable. Bonjour Jérôme Fritel.
Bonjour.
Votre doc est diffusé mardi sur Arte. On vous en parle avec un petit peu d'avance, mais parce que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Alors de l'actu d'abord, comme tous les jours, vous allez voir, elle est réjouissante. Et notre Vandelle du vendredi, salut Philippe.
Salut Sonia.
Et il n'y a rien de mieux que la crème de marron.
On est d'accord, on va en parler.
Oui, c'est ça, pour se remonter le moral.
L'instant M, tous les médias sont sur France Inter.
On vit dans un monde merveilleux, chapitre 1. Après la loi Égalité et Citoyenneté qui a fait passer en douce au Sénat un texte scandaleux exposant les journalistes à des attaques judiciaires en rafale pour des motifs même plus définis par le Code, c'est au tour du Conseil constitutionnel de censurer un article de loi renforçant la protection des sources. C'était pourtant une avancée de la loi Bloche, c'était aussi une promesse de campagne de François Hollande. On vit dans un monde merveilleux, chapitre 2. Breitbart News arrive en France. C'est le site d'info de Stephen Bannon, journaliste virulent, provoque, complotiste, ultra-réactionnaire, sur scène la nuit dernière aux côtés de la famille Trump, le soir de sa victoire. On vous en parlait hier dans l'Instant M, l'audience phénoménale de ce site aux États-Unis voit son impact démultiplié par les réseaux sociaux, c'est-à-dire vos amis et un algorithme qui ne vous envoie que des infos en affinité avec vos convictions. D'autres médias peuvent s'époumoner, donc, à démonter ce type de vérité. Si vous aimez ce genre de journalisme, vous n'aurez plus jamais accès à rien d'autre. Voilà ce qui s'est passé pendant la campagne américaine. Voilà ce qui risque de se passer pendant la campagne française. La montée du Front National va servir de terrain de jeu à Breitbart News. C'est réjouissant, n'est-ce pas?
C'est sympa pour un mois de novembre.
Jérôme Fritel, juste un mot. Vous avez enquêté sur Goldman Sachs et au moment d'enquêter sur Goldman Sachs, vous avez rencontré Stephen Bannon, qui est un ancien banquier. Vous avez été chez lui à Washington.
Oui, effectivement, c'est un ancien banquier de Goldman Sachs et on l'a rencontré dans le cadre de l'enquête que j'avais faite avec Marc Roche pour notre documentaire sur la banque qui dirige le monde.
Vous ne voulez pas nous raconter sa moquette?
Alors, il nous a reçus chez lui. Il a une jolie petite maison à Washington et vous arrivez chez lui et il y a une épaisse moquette. Et la moquette, c'est le drapeau américain. Et il nous a fait visiter toute la maison. Et dans sa chambre à coucher, elle est décorée des portraits des présidents des États-Unis. Il y en a au plafond, il y a le drapeau américain partout. Monsieur Stephen Bannon est un ultra-patriote, voilà, obsédé par le déclin de l'Amérique et qui compare la chute de Rome. Donc voilà, on est assez complotiste.
Hein, c'est ça, et on arrive, tout ça arrive en France. Allez, on va jouer à l'instant Madeleine pour se remonter le moral encore et encore. Si vous êtes le premier à m'envoyer un mail à l'instantm@radiofrance.com, eh bien je vous offre 2 CD de Raymond DeVos, excellente antidote, l'absurdité des mots pour leur redonner du sens. Il vous faut reconnaître cette voix. Vous êtes prêts?
Il y a là ce que l'on appelle un micro-ordinateur. En voici un, il s'appelle Apple. Apple en anglais, ça signifie une pomme. Donc voilà ce mini-ordinateur. Et avec Marc, eh bien, il y a un programme. On va jouer ni plus ni moins qu'à la guerre des étoiles.
L'instant M at radiofrance.com. Philippe Vandelle, c'était soit Leonard Cohen, soit la crème de marron.
J'ai pas vu ça sur mon épaule. c'était dans le cadre de leur case, le doc du dimanche soir. Je regardais France 5 qui diffusait ce dimanche, donc un doc, la crème des marrons. Joli jeu de mots. Ils sont allés en Ardèche pour enquêter. Ils ont raconté l'histoire de la châtaigne, son économie et surtout, ils ont testé le produit emblématique, la crème de marron. Vous aimez ça?
Oui, j'adore ça.
Pareil, 3 marques différentes, une venue d'un artisan producteur, l'autre de la marque historique Clément Faugier et une autre d'une marque distributeur, comme on dit vulgairement. Ils font goûter les 3 à l'aveugle à des chefs cuisiniers ardéchois du coin qui connaissent bien ça. Ils veulent savoir si vraiment on décèle une différence entre les 2 industriels et l'artisanal. La première est l'industriel, la marque de distributeur et les experts font la grimace.
On voit qu'elle est restée dans le chaudron.
C'est pas bon.
C'est trop cuit, on a vraiment que le caramel.
Mais pourquoi on cuit plus?
Et parce qu'il faut cacher un peu les défauts. Ouais. Après, il y a la question sanitaire. Si vous avez des fruits qui sont pas bons et qui sont de très mauvaise qualité, si vous voulez qu'elle soit sanitairement correcte, il faut la cuire.
Alors, on ne nous indique pas la marque et le pot a été flouté. On peut rien reconnaître. Mais la seconde crème est bien désignée. C'est celle de Michel Grange, un artisan, et elle plaît aux cuisiniers.
Je veux dire qu'on s'approche de la vérité quand même, là. Parce que le sucre n'est pas dominant. La texture est bien. La couleur me plaît beaucoup.
Et la troisième est la Clément Faugier, la marque historique, qui ne cache pas que pour des raisons d'économie, font cuire les châtaignes avec la peau parce que c'est plus facile ensuite pour les retirer. Or, pour les connaisseurs, ce goût de tanin est considéré comme un défaut. Verdict.
On voit bien là qu'il y a, ça fait plein de petits morceaux de peau. C'est tannique en fait. Ouais. Niveau couleur, c'est trop foncé déjà. Mais là, je pense que pour le brin, il y a du glucose là par contre.
Ouais, pâteux et puis même écœurant.
Par contre, il n'y a pas de goût de châtaigne, quoi. Pas assez.
Et voici la conclusion du test.
La mieux notée est donc la crème de Michel Grange, avec une moyenne de 14. La Clément Faugier n'a pas la moyenne, avec 9 sur 20. Et la dernière, la crème industrielle, a eu 8 sur 20. C'est dans celle-ci que l'un des chefs relève la présence d'additifs alimentaires.
Alors c'est ça qui m'a fait bondir, parce que sur 3 marques, ils en donnent 2, mais pas la plus mauvaise. Pour quelle raison? Là, il n'y a que 2 hypothèses. Soit ils ne veulent pas, soit ils peuvent pas. Ça peut pas être un hasard, puisqu'il y a une action volontaire. Flouter la marque, il y a un effet numérique qui demande du temps et du boulot, et du travail sur des machines. Donc s'il y a une crème moins bonne que les autres, au niveau du goût, mais également de sa composition, puisqu'elle contient des additifs chimiques, ils l'ont dit, pourquoi ne donne-t-on pas le nom à l'antenne pour que les gens l'évitent? Est-ce qu'ils ont peur d'un procès? Mais dans ce cas-là, il faut le dire. Le producteur ou la réalisatrice ont-ils des intérêts dans les marques de distributeurs, comme ils disent? Et dans ce cas-là, pourquoi on leur confie un reportage? Ou alors, c'est arrivé pour le magazine Eco Capital sur M6, il y a un conflit d'intérêts entre la chaîne et un annonceur. Mais alors pourquoi sur le service public, dont la mission est de rendre service au public? Et là, j'avoue Sonia, que j'en suis resté là, et je me suis dit que le dindon de la farce, c'était la marque Clément Faugier, qui a même pas eu la moyenne, qui s'est fait défoncer, alors qu'il y avait pire qu'elle, mais que ces gens-là n'ont pas été nommés. J'en suis là, je suis écœuré.
Bah oui, écœuré à la crème de marron, je suis assez d'accord avec vous, ça arrive vite. Merci Philippe. Et puis bravo à vous, Mickaël, d'avoir reconnu Michel
Chevalet
en 1979, découvrant un micro-ordinateur de la marque Pomme. Celle-là, on la cite.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Alors attendait-on un journaliste de renom, Jérôme Fritel, ayant signé des documentaires très remarqués sur Daesh, mais aussi sur la banque Goldman Sachs, l'attendait-on sur les jeux vidéo? Eh bien regardez son film sur Arte mardi et vous allez comprendre. Encore une fois, Jérôme Fritel travaille sur les nouveaux maîtres du monde, du moins sur ceux qui y aspirent, sur le pouvoir de l'argent et sur la conquête de l'esprit. Le jeu vidéo, Jérôme Fritel, a changé de dimension. Première mutation fondamentale, il a quitté nos salons, il a envahi les stades.
Oui, le son qu'on entend, c'est le son d'une compétition de e-sport, de sport électronique. Donc le jeu vidéo a même changé de nom. Aujourd'hui, il s'appelle sport électronique. Et il peut se pratiquer dans des stades, dans des salles qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes, où les combattants, les joueurs, les nouveaux gladiateurs s'affrontent sur des écrans.
Et alors les joueurs, il faut raconter, ils sont recrutés à l'adolescence. C'est exactement comme dans les grands clubs de NBA ou de foot.
C'est calqué sur le sport professionnel. Mmh. On recrute des adolescents. On peut pas les faire signer un contrat avant l'âge de 17 ans. Et après, il y a tout un système de mercato. Alors l'équipe que j'ai suivie venait d'engager deux jeunes Coréens de 17 ans qui suivaient déjà depuis 2 ans et qui étaient extrêmement prometteurs. Ces jeunes gagnent... sont salariés, plusieurs milliers d'euros par mois, c'est pas encore des fortunes, mais quand ils gagnent un tournoi, et il y a le tournoi que j'ai suivi, l'équipe gagnante se partageait $1 million, voilà, donc il y a déjà beaucoup d'argent.
L'un des jeux les plus puissants dans ce nouveau marché s'appelle League of Legends, et c'est vraiment le monde virtuel qui colonise le monde réel, c'est ça qui est absolument passionnant comme transformation. Et autre transformation qui s'allie à celle-ci, c'est une fusion avec Internet, parce que finalement, désormais, on ne joue plus seulement tout seul dans son salon, on joue en ligne et le jeu ne s'arrête plus jamais.
C'est un petit peu la première phase de ce coup d'état culturel que je raconte, que j'essaie de décrypter dans ce film. Et effectivement, au départ, le jeu, voilà, on était seul à jouer devant sa console, sur son écran. Et donc, le jeu vidéo avait une image de loisir pour ado un peu débile, un peu asocial, enfermé dans sa chambre, en bouffant sa pizza. Et à partir du moment où, grâce à Internet, le jeu a pu se pratiquer en réseau, il s'est mis à créer des communautés virtuelles. mais des communautés qui rassemblent.
Colossale.
Mais bon, un jeu comme World of Warcraft, par exemple, qui est un des exemples de ce type de communautés, rassemble 10 millions de pratiquants dans le monde, de Sao Paulo à Pékin, la Corée, l'Europe, les États-Unis, n'importe
où. Ce qui est passionnant, parce que ça signifie finalement un langage global, une culture partageable par tous. Enfin, finalement, là, il y a une strate de vivre ensemble qui n'existe plus tout à fait dans le monde réel, Jérôme Fritel.
C'est pas loin d'être le monde parfait. Hein. Ça dépasse toutes les barrières, toutes les frontières linguistiques, religieuses, politiques, les frontières d'âge aussi, effectivement. Tout le monde se rassemble sur ces plateformes virtuelles, géantes, ouvertes 24 heures sur 24, qui ne s'arrêtent jamais.
C'est ça. Et du coup, ça vaut vraiment le coup de se demander quelles valeurs et quels discours on partage sur ces plateformes-là. On va peut-être préciser ce que vous appelez la génération G, c'est-à-dire la génération d'un gamer. C'est finalement un jeune qui a passé 10 000 heures devant une console. On dit toujours une console, non, plus forcément.
On dit un écran aujourd'hui.
Un écran, voilà. 10 000 heures à l'âge de 20 ans. Et 10 000 heures, ça correspond au cumul des heures passées au lycée et au collège à recevoir un enseignement. C'est l'équivalent, à peu près. Hein,
c'est effectivement, ça. C'est une statistique, moi, qui m'a fait bondir et qui m'a décidé à mener cette enquête. À l'âge de 21 ans, on considère qu'un jeune Américain, donc c'est pas très éloigné de notre mode de fonctionnement, hein, de vie à nous, un jeune Américain a passé autant d'heures sur les bancs de l'école et du lycée, hein, on va jusqu'au bac, que devant son écran à jouer aux jeux vidéo, et ça se chiffre à peu près à 10 000 heures.
10 000 heures.
Donc, on peut forcément se dire, ok, qu'est-ce qu'il a fait de ces 10 000 heures? Quelle est l'influence de ces 10 000 heures?
Il y a des filles aussi.
Alors
et
justement, on va y venir.
Ah bah
alors on va y venir
et
parce que là aussi, dans le coup d'état culturel, il y a une vraie transformation démographique de cette population. Le plus important surtout, c'est que cette population, elle est en train de créer ses propres médias en dehors des circuits traditionnels. Je vous propose qu'on aille se balader sur Twitch TV.
Ah, you almost had it.
No, I did not almost have it. Jump out. Oh, that was close. Whoa. Somebody out there?
Wow! Alors, racontez-nous Twitch TV, Jérôme Fritel.
Alors, Twitch TV, c'est une télévision qui existe sur Internet depuis quelques années, où les joueurs peuvent diffuser eux-mêmes leurs propres parties. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que la télévision en elle-même ne propose aucun programme. C'est une plateforme technologique qui permet de se connecter dessus et de diffuser ses parties et de les commenter. Et donc, les copains peuvent regarder, commenter.
C'est ça. Donc, il y a en fait une petite fenêtre qui s'ouvre sur l'écran vidéo et on voit le joueur en train de commenter et de jouer en même temps que la partie se déroule.
Exactement. Et alors, il y a des champions sur Twitch TV. Il y a les meilleurs joueurs ou les commentateurs les plus drôles, parce qu'il y a aussi pas mal d'humour. Et donc, je raconte l'histoire de ce jeune Suédois qui était vendeur de hot dog et qui est devenu la star de Twitch TV, qui est aujourd'hui multimillionnaire.
Twitch TV, elle-même rachetée par 800 millions de dollars par Amazon. Amazon, c'est très important. C'est aussi le géant d'Internet qui a racheté le Washington Post pour 10 fois moins. Mais là aussi, encore une fusion, encore un pont avec les géants d'Internet, puisque tout est là dans le coup d'état culturel. C'est pas une industrie à part, pas du tout.
Non, c'est une industrie qui a grandi. Pour moi, les jeux vidéo, c'est un peu la culture, la nouvelle culture issue de la révolution numérique. Donc forcément, il y a tous les géants d'Internet. On n'est pas loin de la Silicon Valley, c'est la même génération. Il y a des ponts, les gens passent d'une boîte à l'autre. Et le jeune entrepreneur qui a lancé Twitch TV, qui doit avoir 31, 32 ans, devant la réussite de cette plateforme de jeu, on a eu deux géants qui se sont battus pour la racheter. Il y avait d'une part Google et d'autre part Amazon. C'est Amazon qui a emporté le morceau, 1 milliard de dollars, 800 millions d'euros. 4 fois donc le prix payé 2 ans plus tôt pour acheter le Washington Post. On voit un peu le décalage entre les médias de l'ancien monde, la presse écrite, dont on dit qu'elle est en voie de disparition, et les médias du nouveau monde.
Alors, mutation numéro 2 est l'amplification phénoménale, ce qu'on appelle la méga-distribution. C'est-à-dire que fut un temps pour distribuer un jeu vidéo dans le monde entier, il fallait des armées de vendeurs, il fallait des magasins, il fallait des emballages, il fallait des livreurs. Eh bien, aujourd'hui, non, il suffit d'un téléphone portable, puisque le jeu vidéo se télécharge en un clic. C'est ce qu'on appelle le casual gaming. Et ça change tout dans la relation au quotidien, Jérôme Fritel, avec le jeu vidéo.
Ça change tout parce que, du coup, vous pouvez jouer partout, tout le temps. Vous avez 2 minutes, vous avez 5 minutes, dans le métro. Moi, je suis venu en métro, il suffit de regarder, les gens passent leur temps à jouer, des petits jeux. Alors, le visuel est beaucoup moins abouti que sur les très beaux jeux où vous passez des heures en ligne.
C'est pas grave, ça marche très
bien. Mais c'est
pas
grave, l'important, c'est ce sont des jeux qui sont calibrés pour être joués pendant 2 minutes. Et d'ailleurs, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché absolument fabuleux.
Fabuleux.
C'est un marché fabuleux. Il y a 400 nouveaux jeux qui sont mis sur ces plateformes, que ce soit la plateforme d'Apple ou la plateforme de Google, par jour. 400 nouveaux jeux par jour. Des jeux qui vont, à 99,99%, ne jamais être marqués par le public. Parce que les spécialistes de ces jeux vous disent, quand on met un jeu sur le marché, les gens prennent entre 45 secondes et 2 minutes pour le tester.
C'est ça, c'est une
si
sélection.
Si vous accrochez pas la personne
darwinienne,
c'est voilà, c'est quoi darwinien.
Aussi vite. Et autre mutation très importante, c'est avec le casual gaming, justement, c'est l'arrivée des femmes en masse sur ce marché, la cible la plus convoitée étant à peu près moi, c'est-à-dire
vous êtes la nouvelle gameuse.
Exactement, qui joue une pas
femme,
encore.
Une femme qui aime la crème de marron.
Une femme qui aime la crème de marron qui a en gros la quarantaine, qui vit en milieu urbain et qui a des enfants. Et voilà les nouvelles gameuses.
Vous êtes, pour les gamers, pour l'industrie du jeu, vous êtes l'équivalent de la ménagère de moins de 50 ans pour la
télévision.
C'est
ça. Et c'est là que commence la bataille, et là elle est vraiment très intéressante, c'est là que commence la bataille pour le temps de cerveau disponible, c'est là que commence la bataille pour le temps libre. C'est-à-dire que, oui, on a compris que le jeu vidéo s'était battu contre le cinéma, mais aujourd'hui, avec des super productions à 70 millions de dollars, le combat est gagné. Aujourd'hui, on se bat contre la télévision, Jérôme Fritel.
C'est un affrontement. On se bat pour le temps à l'intérieur des écrans, le temps libre, donc le temps de cerveau disponible, pour reprendre l'expression célèbre d'un monsieur de télévision, Patrick Lelay. Aujourd'hui, on travaille sur... voilà, les gens vont passer un certain nombre d'heures par jour sur leurs écrans, que ce soit télévision, smartphone, console ou autre. Le jeu vidéo veut être le principal objet de consommation à l'intérieur de ces écrans.
Et c'est là qu'il est
challenge
devenu
directement la télévision.
La télévision. Et c'est là qu'il est devenu un média de masse et qu'il convient de l'interroger comme on interroge les autres médias de masse, c'est-à-dire sur son discours et sur ses messages. Et c'est là que vous allez pointer justement des outils qu'on appelle des outils du soft power, c'est-à-dire des jeux qui trimballent une vraie idéologie et une vraie idéologie qui a toute sa place dans, on va dire, le schéma géopolitique mondial, Jérôme Fritel.
Mais en fait, c'est devenu un média. C'est devenu un média de masse. Et donc, on est en droit de s'interroger sur ce média, comme on peut questionner les autres médias. Vous questionnez les programmes de la télévision, qu'est-ce qu'on met comme contenu. Eh ben, on doit faire la même chose avec
alors,
les jeux
America's
vidéo.
Alors, America's Army, par exemple.
America's Army, c'est formidable. Après le 11 septembre, l'armée américaine essaye de construire un outil pour d'abord donner une bonne image d'elle-même et pour essayer de recruter le maximum de futurs combattants.
Elle l'a fait longtemps avec le cinéma.
Là, elle se dit, si je veux toucher la nouvelle génération, il faut que je fasse un jeu vidéo. Et donc, dans leur base secrète, dont qu'on a été visité, où ils fabriquent leurs missiles et les logiciels de guidés laser. Ils ont recruté des professionnels du jeu vidéo et ils ont construit un jeu, développé un jeu qui s'appelle America's Army. Et ce jeu a eu un succès phénoménal. Et c'est un jeu de propagande. Mais
et
c'est clairement
Chinois
affiché.
Les
Chinois font la même chose. Même le Hezbollah. Oui. A développé un jeu dans lequel le méchant, c'est le soldat israélien.
Ah bah, sans blague.
Forcément.
Sans blague. Et d'ailleurs, on voit bien que l'identité du méchant dans le jeu vidéo a évolué au fur et à mesure des intérêts de l'Amérique dans la carte mondiale.
Oui, avant, le méchant, c'était le nazi. Après le 11 septembre, le méchant, c'est le terroriste arabe. Et aujourd'hui, dans les nouveaux jeux, le méchant, c'est le vilain russe de Poutine.
C'est ça, avec un petit peu de chinois, non, quand même.
Peut-être que ce sera les prochains jeux.
Merci beaucoup Jérôme Fritel. On vous en reparlera pour vous le rappeler, les jeux vidéo, les nouveaux maîtres du monde, c'est sur Arte, c'est mardi à 22h25. Merci à l'excellente équipe de l'Instant M, Violaine Baleine, Cécile Perrin, Redouane Tella, Raphaël Grippe-Marquis. C'est la fin de l'émission. Bonjour à l'Aïr EBI, rendez-nous Léonard Cohen.
Bonjour Sonette Villers. De quoi avez-vous rêvé cette nuit?
De Léonard Cohen.
Eh ben, vous voyez, rêve prémonitoire. Ce matin, on s'intéresse à l'interprétation des rêves avec Toby Nathan.
Toby Nathan, et ce sera passionnant. Bravo, très beau sujet, et c'est après les infos.